Homme en rond, il est 7 h en avalant. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. J'ai pensé que nous pourrions ce soir consacrer notre soirée d'abord à la session de yoga et à tous ces participants nombreux qui sont ici. Nous allons donc passer la parole à Yeshe, qui pourrait se mettre un petit peu plus en s'avancer un petit peu. Donc aujourd'hui, vous avez commencé la pratique.
Tout à fait.
Quel a été le programme du jour?
Alors, entre ce matin et cet après-midi, nous avons vu le premier et le deuxième chapitre. Premier chapitre sur l'existence cyclique et le deuxième sur la libération. Donc, on a abordé des notions comme nos deux natures, notre nature fondamentale, avec ses qualités d'ouverture, de clarté, de non-dualité, et notre nature actuelle, donc conditionnée avec ses tendances, ses passions, sa confusion, ce qui nous écarte de notre nature fondamentale, à savoir nos voiles, donc en 4 points. Et nous avons donc vu les deux chapitres en parallèle avec les quatre nobles réalités. Voilà. Et en développant donc toutes dans un premier niveau de détail, particulièrement la dernière, le noble octuple sentier. En pratique, nous avons vu donc l'alternance avec le corps, les Rôles Adpartés, et nous verrons demain matin donc l'hommage et la salutation à l'éveil omniprésent.
Vous avez donc vu l'octuple noble sentier.
Tout à fait.
Rappelez-nous l'octuple noble sentier, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaissent bien les
Alors,
huit.
on l'a présenté en parallèle avec le triple apprentissage. Il s'entrecoupe avec lui. Donc, dans l'apprentissage de la conduite éthique ou discipline, on a donc vu l'action juste, la parole juste et les moyens d'existence juste. Au niveau de l'apprentissage du recueillement méditatif, nous avons vu l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Donc je me suis basé sur les traductions du dictionnaire de Philippe Cornu pour cela. Et au niveau de la connaissance, nous avons vu donc la pensée juste et la compréhension juste. Voilà. Donc on a développé chacun des points.
Très bien, très bien. Alors, qu'est-ce qui ressort de tout ça pour les pratiquants? Alors, vous avez pratiqué les postures aussi.
Alors, les postures, on a vu les roulades pour l'alternance. Et nous avons fait ce matin particulièrement l'ensemble des étirements. On a fait les automassages. Et je gardais la suite pour demain.
Alors, est-ce qu'il y a des remarques ou des observations, des questions, des précisions sur tout cela, qui soient venues chez les pratiquants? Qu'est-ce que vous en avez entendu, compris, retenu? Ah. Bon.
Je leur ai fait une petite interrogation en fin de journée pour être sûr.
Quels étaient les termes alors de l'interrogation?
Ben, on a récapitulé et puis je, plutôt que devancer en présentant les points, donc je les faisais, je les questionnais et puis ils enchaînaient eux-mêmes et voilà. Donc dans l'ensemble, on a revu tout. Voilà, tout avait été soit compris, noté et on, voilà, ils ont revu tous les points.
Bon, ben, si vous, on verra demain si vous avez des questions ou des remarques.
Il n'y a pas d'enseignement demain.
Ah, demain il n'y a pas. Après-demain.
Après-demain.
Après-demain. Quand on dit demain en tibétain, ça veut dire la prochaine fois. La prochaine fois. Donc autrement, nous allons passer la parole à Derine qui continue à être récipiendaire des questions qui arrivent ici, d'ici et d'ailleurs. S'il vous plaît, Terine.
Donc hier, nous avons parlé de vacuité, de pleine présence. Et en fait, j'ai retrouvé la personne qui était à l'origine de la question et qui avait en fait des précisions à demander. Donc je vais lui laisser la parole. C'est Gunpo qui est juste là derrière, si on peut lui amener un micro.
Gunpo, un bâton de parole vous arrive.
En fait, il a suivi un séminaire sur la vacuité ce week-end, dans un séminaire qui était parti de l'université. Je ne sais pas l'intervenant, mais il va nous en parler.
Vous avez suivi le week-end séminaire avec Diane Denis, oui, sur les étapes de la vacuité, l'enseignement de Kempo Rinpoche, qui est le chancelier de l'université Rimé. Et tout
à,
alors
tout à fait. Donc ma question portait en fait sur la différence ou les points communs entre les techniques donc de pleine présence et celle de la vacuité en fait, les techniques à proprement dites.
Ça dépend de quelle technique de vacuité. La technique est un mot un petit peu
pratique.
Moyen ou pratique. La pleine présence est une pratique de vacuité. Après, il y a beaucoup de pratiques de vacuité. Vous en avez vu pendant cette retraite un certain nombre. C'est une chose importante dans le Dharma que de comprendre qu'il y a de nombreuses méthodes, de très nombreuses méthodes. Et en fait, on peut partir de n'importe quelle situation et en faire un moyen, un support de pratique. Pour ce qui est de la pleine présence, c'est très évident. Et toutes les méthodes, toutes les pratiques ont un dénominateur commun. Un dénominateur commun, alors dans le contexte, je vais dire, qui est la vacuité. Un dénominateur commun qui est vacuité au sens d'évacuation. Au sens d'évacuation, au sens de dissolution. Hier, j'ai expliqué que vacuité est une forme de négation. Forme de négation, de soustraction, de et vacuité a le sens donc d'évacuer, d'enlever. Donc c'est la question ensuite, c'est enlever quoi? Alors enlever, on peut dire les voiles et les illusions. On vient d'en parler. les illusions et les passions. Mais le dénominateur commun des illusions et des passions, quel est-il? Il y a un dénominateur commun aux illusions et aux passions. Quel est-il? Pardon? L'ignorance, oui. Mais... J'ai entendu là quelqu'un qui disait la saisie. Là, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses, mais ce qui est important dans le contexte expérimental, expérientiel ici, c'est la saisie. La saisie alors, est le dénominateur commun aux illusions et aux passions. Et dans toute pratique du dharma et d'une façon directe ou indirecte, une façon d'évacuer la saisie. Maintenant, vous pourriez vous interroger, mais la saisie, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que la saisie? On entend par saisie... C'est un terme difficile. Bien sûr, je saisis le verre. Saisir, c'est prendre. Mais il y a différentes façons de prendre. On peut prendre avec la main, on peut prendre physiquement, mais on peut aussi saisir mentalement. Saisir conceptuellement. Et la saisie la plus profonde ou la plus subtile est la saisie conceptuelle ou la saisie de la conscience. La conscience, ce que la conscience que je suis, est un processus cognitif de saisie. On dit toujours qu'il n'y a conscience que conscience de. Il n'y a conscience que conscience de ce que l'on saisit. Donc, la conscience est une saisie. Il y a la saisie conceptuelle qui opère dans la conscience, la saisie mentale, différentes façons de dire, il y a des nuances, mais ça va dans la même direction. Et cette saisie est restons simples. Cette dans l'évacuation de la saisie et particulièrement donc, de la saisie conceptuelle, de la saisie mentale, de la saisie de la conscience, dans laquelle ensuite vient une forme de saisie secondaire qui est la saisie des passions. Les passions, attraction, répulsion ou même indifférence, viennent d'une saisie. Saisie en rejet, non. Saisie en attraction, oui. Saisie en neutre, ça m'est égal. Attraction, répulsion, indifférence. Donc, il y a la saisie conceptuelle, il y a la saisie passionnelle, et la saisie passionnelle est un développement de la saisie conceptuelle. La saisie conceptuelle, c'est le niveau des pensées. On saisit avec des pensées qui sont des noms et des formes. Et c'est dans cette saisie de la pensée, dans cette saisie conceptuelle, que l'impression de dualité naît. Et dans la dualité, la saisie, une saisie secondaire amène les passions, les émotions conflictuelles et les passions. Une émotion conflictuelle est une pensée au départ à laquelle s'est ajoutée une charge affective, un affect. Et c'est la pensée plus affect amène ou devient émotion. Donc, tout ça pour dire que dans la libération, et toute la pratique est une pratique de libération, la libération est libération de la saisie, sous toutes ses formes, subtiles et grossières, illusion et passion. Et cette désaisie, cette libération désaisie, l'évacuation de la saisie est vacuité. Dans cette perspective, la vacuité et l'évacuation et faire le vide de saisie, l'absence de saisie, cette vacuité, ce vide de saisie. Et c'est précisément cette absence de saisie, ce vide de saisie, ce que l'on découvre, pratique et cultive dans la pleine présence. La pleine présence consistant à être présent sans saisie. Ça n'est pas la pleine présence n'est pas la présence de moi, n'est pas la présence de soi. Je l'ai déjà dit hier, c'est la présence totale, sans soi, sans la saisie du soi. C'est la présence vide de soi. Et en ce sens précis, la pleine présence et l'expérience de vacuité. Merci.
Très bien, merci.
Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? En attendant, je voudrais rappeler aux personnes qui sont avec nous sur Internet qu'il y a un décalage de 10-20 secondes entre le moment où Rinpoche parle et le moment où vous recevez l'image. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on les prendra par la suite.
Donc, Derine nous rappelle que l'on peut poser des questions online. Et il y a juste un tout petit décalage, mais ça ne gêne pas.
Voilà.
Merci.
Très bien. Ah, il y a une question Madame, derrière
s'il vous
moi.
Plaît.
Je trouve très difficile de comprendre comment mettre en pratique la non-saisie dans la vie quotidienne. Et ma question, c'est comment rendre compatible cet entraînement à la non-saisie et en même temps rester engagé dans l'action pour porter concrètement des valeurs humanistes dans la société, dans l'action. Sachant que quand on le fait, on est confronté à des obstacles, à des difficultés, parfois à des personnes qui sont difficiles, manipulatrices ou pas toujours honnêtes. Donc, quand on est face à tout ça, avec son désir d'engagement, et puis en même temps face à des obstacles, comment pratiquer la non-saisie ?
C'est une très bonne question. Alors, d'abord, comment vivre la saisie dans la désaisie ou la non-saisie, comment vivre la ou comment s'entraîner à la désaisie dans la vie quotidienne. Réponse simple, en pratiquant le dharma. Toutes les pratiques du dharma vont dans ce sens et toutes les pratiques du dharma ont pour fonction unique, même pourrait-on dire, de cette opération libératoire, cette libération de la saisie. Donc, pratiquer le dharma. Non. Reposant votre question maintenant avec ce complément, est-il possible de pratiquer le dharma en étant engagé? Est-il possible d'être un bouddhiste engagé, finalement? La notion de bouddhisme engagé est une notion très importante. Elle est un petit peu délicate, parce que si on parle de bouddhistes engagés, on aurait l'impression qu'il y a des bouddhistes dégagés. Un véritable pratiquant est nécessairement engagé. Maintenant, l'engagement est la pratique de bodhisattva. Un bodhisattva, un vaillant, un vaillant, bodhisattva, est une personne engagée pour le bien de tous, engagée dans une responsabilité universelle. Donc, un bodhisattva est nécessairement, un vrai bodhisattva est nécessairement une personne engagée, et tous les pratiquants de la voie universelle sont des bodhisattvas, donc des personnes engagées en ce sens. Alors maintenant, l'engagement, de quoi s'agit-il ? Et comment être bien engagé ou comment bien s'engager ? Engagez-vous, engagez-vous, qui disait. Le vrai et bon engagement est aussi dans la non-saisie, est dans la pleine présence et sa non-saisie, et dans la désaisie de la pleine présence. Le véritable, profond et efficace engagement se réalise dans la désaisie de l'état de pleine présence. Dans la désaisie de l'état de pleine présence. L'état de pleine présence est un état de désaisie. Alors, un exemple qui pose des problèmes, mais utilisons-le néanmoins, c'est l'exemple du samouraï. Du samouraï sur le champ de bataille. Alors, il est engagé. Il est engagé même dans un combat à la vie, à la mort. Et dans cette situation d'engagement, il sera un bon samouraï dans l'état de désaisie de la pleine présence. S'il est un samouraï dans la saisie, déjà serré, il y a les chocottes parce qu'il risque de se faire tuer, ce ne sera pas, terrible. Il risque vraiment de se faire tuer. S'il est dans la saisie, dans le passé, en pensant à sa famille qu'il a laissée, à sa bien-aimée, à ses enfants, je ne sais, et que cela lui occupe l'esprit, qu'il est possédé par... il ne sera pas présent et il risque, dans sa distraction, de se faire surprendre. S'il est dans des projections pour l'avenir, après la bataille, le repos du guerrier, je ne sais pas, je retournerai à la maison, en train de fantasmer, il ne sera pas non plus présent. Vraiment présent. Et il risque aussi d'être surpris. Et pareillement, dans l'expérience sensorielle, s'il est fixé sur le devant, il risque d'être surpris par les côtés ou par derrière. S'il était fixé à droite, d'être surpris par la gauche, et etc. Non, c'est dans un état de désaisie et d'ouverture, de pleine présence, ouverte, dans un éveil sensoriel, dans une ouverture sensorielle complète, totalement présent, et sans saisie, sans passion, sans peur, qu'il sera le meilleur dans les pleines ressources de ses capacités. Et qui plus est, ce ne sera pas un samouraï violent. C'est un samouraï non violent. Et c'est là la difficulté de l'exemple. Et dans les véritables arts martiaux traditionnels, le Bouddha avait eu un entraînement extrêmement poussé dans les arts martiaux. Il était un champion, dirait-on. Il avait gagné des tournois exceptionnels. Il ne s'agit pas de tuer, mais le mieux, c'est qu'il n'y ait pas de combat. Et dans la pleine présence, il y a une empathie, une empathie qui fait que il n'y a pas d'agression. Il peut y avoir, s'il est attaqué, une réponse fulgurante, mais il n'y a pas de passion. Il n'est pas dans un état passionnel. Et c'est le meilleur guerrier qui soit, c'est le parfait guerrier, c'est la perfection de la voie du guerrier. Et c'est la perfection d'une attitude aussi engagé, alors quel que soit l'engagement, humaniste, social, économique, altermondialiste, ou je ne sais. Et c'est une forme, il y a là une forme d'action qui est beaucoup plus efficace qu'un militantisme passionnel. Le militantisme passionnel n'est pas une bonne forme d'engagement. Il amène de la passion dans la passion. Le véritable et le bon engagement est, pourrait-on peut-être dire, à l'image du Mahatma Gandhi, et de sa parole célèbre, soit l'exemple de ce que tu voudrais voir advenir. Et soit dans la pleine présence ouverte et empathique que tu voudrais voir advenir en chacun. Et tu es alors aussi dans la plénitude de tes ressources et dans la plénitude de la communication, dans l'interaction avec autrui. Donc non seulement ça n'est pas dessaisie et action ne sont pas incompatibles, mais exactement au contraire, l'action parfaite s'accomplit en l'état de non-saisie.
Est-ce que je peux tenter deux toutes petites questions de clarification pour être sûr que je comprenne? Dans le combat pour défendre des valeurs, n'y a-t-il pas un attachement à ces valeurs, un attachement conceptuel, que ce soit la valeur de la liberté, de l'égalité, de la solidarité? Est-ce qu'il n'y a pas attachement à ces valeurs quand on combat pour? Et la deuxième question, c'est quand on est face à un ennemi, comme dans l'image des samouraïs, est-ce que l'idée, c'est de ne plus voir l'ennemi comme un ennemi, mais d'être capable de développer cette compassion tout en gardant la capacité d'être ferme et de défendre ce qu'il y a à défendre?
C'est surtout de ne pas juger ou de ne pas évaluer et de ne pas se dire « c'est un ennemi, non, il ne faut pas que je le voie comme un ennemi, il faudra que je développe de la compassion ». Si vous êtes dans cet état, vous êtes mal aussi, parce que vous êtes déjà en train de gamberger. C'est une façon de faire qui est bonne à un niveau relatif et mieux vaut s'entraîner à développer une vision positive que d'être dans une vision négative. Mais la véritable désaisie n'est pas même dans une saisie positive. La véritable désaisie, la véritable pleine présence ou l'état de présence de non-saisie et sans concept. Et c'est là que se situe l'empathie la plus profonde. L'empathie éveillée. En lien avec les arts martiaux et cette histoire, il y a toujours le célèbre épisode d'Angulimala, mais comme je le raconte souvent, J'hésite à le raconter une fois de plus. Voilà, vous voyez, il a des... Donc, tous ceux de... de la session du yoga l'ont déjà entendu. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas l'histoire parmi vous? Ah, oh. Bon. Un bis. Angulimala, le nom Angulimala signifie mala de petits doigts. Et du temps du Bouddha, Angulimala était un serial killer, un tueur en série. Méchant. Méchant. Et qui, chaque fois qu'il tuait une personne, lui enlevait le petit doigt et en faisait, le mettait sur sa guirlande. Et il avait comme ça une guirlande des petits doigts de toutes les personnes qu'il avait tuées. Et il avait aussi dit qu'il tuerait, je ne sais plus, 108 personnes ou quelque chose comme ça. Il en avait déjà tué plus d'une centaine. Et sa renommée était assurément dans le comté, dans la contrée, redoutable. Et donc un jour, le Bouddha était dans un petit village invité par des bienfaiteurs. Il dînait, déjeunait. Et il était seul avec ses bienfaiteurs qu'il avait invités à déjeuner. Et tout d'un coup, arrive un message, une personne en criant « Angulimala arrive ! Angulimala arrive !» Et tout le monde « Et dans le village, il y avait juste une rue centrale avec des maisons de chaque côté, un peu comme des villages de western. Et ils mettent les planches et tout le monde se barricade chez soi. Et le Bouddha... Eh bien, écoutez, vous avez été très aimable, ce repas était excellent, je vous en remercie, et si vous permettez, à ce point, je vais prendre congé. Mais, bienheureux, vous n'y songez pas, Angulimala arrive. Je vous remercie, on se reverra plus tard. Et bon, ils se lèvent, et ils insistent, mais... Visiblement, il était décidé à partir et il n'aurait pas été convenable de l'en empêcher. Il sort et il part en marche méditative, posé. Il n'y avait personne. Il marche tout seul dans la longue rue droite et à l'entrée du village, Angulimala arrive. Il voit que tout est fermé. Ils ont les jetons, hein. Il arrive. Et il voit là-bas une personne qui marche. Il dit, « Hé, toi, là-bas, arrête !» Le Bouddha continue à marcher. Marche méditative, posée. Et il se met à il accélère, il arrête là-bas. Et puis trois fois, et puis il dégaine son sabre, il commence à être vraiment furieux. Arrête! Il rattrape le Bouddha qui toujours marche. Posément. Et l'ayant rattrapé, en rage et en sueur, il arrive devant lui, sabre au clair, et lui, ne t'avais-je pas dit d'arrêter? Le Bouddha lui répond, mais il y a longtemps que je me suis arrêté. Et il le regarde paisiblement, dans la pleine présence, empathique, et Angulimala reste complètement quoi ? Et il comprend intuitivement et s'effondre en pleurs au pied du Bouddha. Et il lui demande de le prendre comme disciple. Et il deviendra ainsi un de ses disciples. Et c'est ainsi qu'il échappera à la police royale qui le poursuivait. Et il obtint la réalisation. Il devint un arhat. Voilà, c'est l'histoire d'Angulimala et aussi du pouvoir de la présence inconditionnelle. Là, vous me direz, c'était le Bouddha. Je vous répondrai, c'est vrai. Il y aurait pu avoir d'autres scénarios. C'est vrai. Mais néanmoins, l'histoire est véridique. Madame ? Bonsoir.
J'aurais voulu un éclaircissement sur la différence entre résignation, renoncement et non-saisie, parce que j'ai un peu tendance à les confondre.
La non-saisie est aussi non-attachement. La résignation est une forme de d'auto-agression, finalement. Je suis résigné, mais dans le sens, il n'y a rien à faire, je ne peux rien faire, je suis incapable, et donc je me résigne. Et le troisième terme que vous disiez ?
Renoncement.
Renoncement, ça dépend, il y a un renoncement qui peut être une résignation, il y a un renoncement qui peut être un non-attachement. Et le bon renoncement est celui qui développe un état de liberté, de non-attachement. Le non-attachement, c'est ne pas être attaché. Ne pas être attaché, c'est ne pas avoir d'attache, ne pas être lié. Le non-attachement est un état de liberté. Et le renoncement est de laisser tomber des choses, des situations qui nous possèdent. Et c'est ainsi faire un geste de liberté, de libération.
Merci.
Aurélien, s'il vous plaît.
Rinpoche, bonsoir. 95 personnes avec nous ce soir et deux questions sur la saisie. Donc Frédéric, des Bouches-du-Rhône. Comment arriver à lâcher la saisie sans tomber dans l'indifférence ou la neutralité?
Cela fait suite à une question qui vient d'émerger. Comment
arriver à lâcher la saisie sans tomber dans l'indifférence ou la neutralité?
Oui. Comment arriver à lâcher la saisie? Comment lâcher prise? Comment lâcher la saisie sans partir dans la neutralité d'indifférence? La neutralité d'indifférence est grave, dangereux. Si vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai mentionné trois poisons, passions, attraction, répulsion et indifférence. L'indifférence est un poison. Et l'indifférence est une forme de passion. Ce n'est pas une passion chaude ni froide, mais c'est une passion, ou c'est un poison de l'esprit. Et l'indifférence est une forme d'attachement. L'indifférence est une forme de saisie ou d'attachement. L'indifférence, c'est quand on est attaché à son état, son confort. Lorsque l'on est dans son cocon, en quelque sorte, et, ça m'est égal. Ça m'est égal. Je m'en super tamponne. Et je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre. Ça m'est égal. Je m'en lave les mains. L'indifférence est une forme d'attachement. Et une fois qu'on l'a senti, une fois qu'on l'a compris, c'est un poison. Et la désaisie, la non-saisie, n'est pas du tout de l'indifférence. La non-saisie n'est pas dans l'attachement en positif, n'est pas dans l'attachement en négatif, n'est pas non plus dans l'attachement en neutre, dans l'égalité, la neutralité. Il y a un attachement à la neutralité qui est tout à fait aussi un attachement. Dans la non-saisie, la véritable non-saisie, n'est pas du tout de l'indifférence, et c'est même... la non-saisie authentique est l'état de plus grande sensibilité, de plus grande réceptivité ou disponibilité qui soit. C'est le contraire même, c'est l'opposé même de l'indifférence. L'indifférence est un blocage dans la neutralité. Ça m'est égal. Je ne voudrais pas savoir. Alors que dans la véritable non-saisie, il y a, comme dans l'image du samouraï tout à l'heure, une ouverture, une réceptivité, alerte, attentive, sensible. Voilà. Si ça ne répond pas pleinement à la question, c'est bien de relancer. C'est mieux qu'il y ait des questions rapides en relançant que de faire de longs développements sur chaque question. En tout cas, je préfère.
Merci Rinpoche. Donc j'enchaîne avec la deuxième de Rabguier d'Annecy. Bonsoir Rinpoche. Dans l'état de non-saisie, est-ce de notre nature fondamentale qu'il s'agit ? N'y a-t-il pas des restes de conditionnement ?
Dans l'état de non-saisir, l'on entre dans notre nature fondamentale. Notre nature fondamentale est ce qui reste quand la saisie est partie. Dans notre nature fondamentale est... pour prendre un langage du Dharma, et la claire lumière vide de saisie. La dimension fondamentale de l'énergie cognitive, lorsque toute saisie est libérée, lorsque la saisie est libérée. Quelle était sa question, plus précisément ? La nature fondamentale est ?
Dans l'état de non-saisie, est-ce de notre nature fondamentale qu'il s'agit ? N'y a-t-il pas des restes de conditionnement ?
Oui. Là, il y a un point. On peut être dans la non-saisie et qu'il y ait encore des restes de conditionnement. La véritable entrée dans l'état de non-saisie duel est ce que l'on nomme dans le Dharma le premier niveau de Bodhisattva supérieur, la première terre de Bodhisattva. Mais en celle-ci, il est encore des imprégnations, des relents, ce qu'on appelle des samskaras, qui subsistent et qui sont encore susceptibles se manifester. Dans l'état de non-saisie, lorsque celui-ci est stable, c'est imprégnations, ces restes, ces résidus de conditionnement se manifestent, émergent, mais sans suite. Ce qui leur donnerait une suite serait la saisie qui se fixerait dessus ou qui les suivrait en les saisissant. Donc, c'est sans suite. Mais cela prend du temps. On dit que cela prend ce que l'on nomme les 10 niveaux de Bodhisattva pour que tous ces restes soient dissipés. Alors, une image traditionnelle amusante. La saisie, c'est comme une crotte, pour ne pas dire autre chose. Et si vous avez une crotte dans une boîte, vous avez une boîte en bois, avec une crotte dedans. Vous enlevez la crotte. Et là, c'est la fin de la saisie. Mais bien qu'il n'y ait plus de crotte dans la boîte, ça sent encore. Et il y a encore des imprégnations latentes. Et cela prend un certain temps pour que ces imprégnations latentes se dissipent, même une fois que la crotte est partie. Je vous propose un petit moment de contemplation et une dédicace.